mon tableau, donc le principe, c'est d'abord d'écouter un paysage sonore qui a été composé à partir d'un tableau du musée d'Orsay. Si vous voulez, les enfants, vous pouvez tout à fait dessiner pendant cette écoute, imaginer ce que serait le tableau pour vous en l'écoutant. Et puis, dans un deuxième temps, à 14h15, vous pourrez écouter la description du tableau d'origine. Vous avez ces tableaux à disposition sur le site internet Radio Cartable. Et à 14h30, on réécoutera l'interview de Wissem Belkacem, qui a écrit « Adieu, ma honte » et qui en parle aux collégiens de Politzer, qui en parlait en mai dernier. Bonne écoute.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Bonjour, vous allez entendre la classe de CM2 de l'école Rosaline Franklin. Après une visite au musée d'Orsay, les élèves ont créé 6 paysages sonores qui s'inspirent chacun d'un tableau. Ils vous proposent un nouveau jeu, Écoute mon tableau. Nous vous proposons de prendre de quoi dessiner et de représenter le tableau tel que vous vous l'imaginez, en écoutant chaque paysage. Après les paysages, une petite musique vous permettra de continuer à dessiner. Paysage sonore, tableau 1.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
S'il vous plaît, juste avoir un verre de vin.
Ok, monsieur.
Merci.
À toi de jouer. Ok.
Juste avoir un verre de vin.
Ok, monsieur.
Merci.
À toi de jouer. Ok.
Paysage sonore, tableau 2.
Bonjour.
paysage sonore, tableau 3. Paysage sonore, tableau 4. Paysage sonore, tableau 5. Thank you.
Paysage sonore, tableau 6. N'oubliez pas de nous envoyer vos dessins par mail à radio-du6cartable@ouvaton.org.
Sur l'arbre qui perd. ses feuilles, les restes de marbre. Tout à coup, un écureuil se balade dans l'océan. C'est un peu
Bravo aux enfants pour leur imagination dans l'écriture de cette chanson. Vous venez d'écouter Au pays de l'imaginaire et c'est également dans l'album de Pascal Loquin fait avec les élèves d'élémentaire du 15e arrondissement. Voilà, alors vous êtes bien sûr Radio Libertaire 89.4 FM et c'est l'heure de Radio Cartable.
Bonjour, vous avez entendu six paysages sonores. Ce sont des bruitages que les CM2 de l'école Rosaline Franklin ont réalisés à partir de leur analyse de chaque tableau impressionniste du musée d'Orsay. Maintenant que vous vous êtes bien représenté la scène, vous pouvez regarder le tableau original tout en écoutant leur analyse. Tableau 1.
Les joueurs de cartes de Paul Cézanne.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
S'il vous plaît, juste avoir un verre de vin.
Ok monsieur.
Merci.
À toi de jouer.
Ok.
Le tableau « Les joueurs de cartes » peint par l'impressionniste Paul Cézanne est exposé au musée d'Orsay. Il était réalisé vers 1890 à l'époque contemporaine. Le tableau a été peint avec de la peinture à l'huile. La scène représente un moment de la vie quotidienne qui se situe dans un café. Au premier plan, nous voyons deux hommes assis, jouer aux cartes. Une bouteille de vin est posée sur la table et coupe la scène en deux de manière symétrique. Les hommes sont vêtus de costumes et portent un chapeau. L'un des hommes fume une cigarette. Ce sont des ouvriers qui viennent probablement se reposer après leur journée de travail. Les couleurs qui dominent sont le rouge et le marron.
Tableau 2.
Le bal du moulin de la Galette. Le tableau s'intitule « Bal du moulin de la Galette ». Il a été peint par Auguste Renoir à l'époque contemporaine, vers 1870. Pour peindre son œuvre, le peintre a utilisé de la peinture à l'huile. Aujourd'hui, vous pouvez aller découvrir son tableau au musée d'Orsay, où il est joliment encadré. Si vous allez le voir, vous remarquerez qu'il est assez petit. Et nous allons vous en donner la raison. En effet, les impressionnistes comme Renoir ou Van Gogh peignent des scènes de la vie quotidienne et des scènes en extérieur. Ils évitaient de transporter de grandes toiles. Comme son nom l'indique, il est question d'un bal qui se déroule au moulin de la Galette. Le tableau est composé de personnages adultes, certains dansent, d'autres attablés, discutent et s'alcoolisent. Ces personnages sont habillés à la manière des gens du XIXe siècle. En arrière-plan, des musiciens jouent dans un orchestre. Les vêtements des personnages et les couleurs de la peinture laissent à penser que c'est l'été. Cette œuvre nous renseigne sur le quotidien des personnes qui vivaient au XIXe siècle, notamment les loisirs des Parisiens.
Tableau 3.
La sieste, Vincent Van Gogh. Le tableau « La sieste » de Van Gogh est exposé au musée d'Orsay. Vincent Van Gogh fait partie du groupe des impressionnistes. Le tableau a été peint à l'époque contemporaine en 1890 avec de la peinture à l'huile. La scène se situe dans les champs. Sur le tableau, au premier plan, on peut voir des personnes habillées comme des paysans qui font la sieste sur le foin dans un coin d'ombre. On imagine qu'il s'agit d'un couple qui semble très fatigué, probablement en raison de la chaleur et des conditions de travail difficiles. En effet, la scène semble se passer l'été pour représenter ce paysage estival. Le peintre utilise des couleurs chaudes comme le jaune et vives comme le bleu. Ensuite, au second plan, on aperçoit des vaches qui broutent le foin et une charrette.
Tableau 4.
Jeune fille au piano d'Auguste Renoir. Le tableau s'intitule « Jeune fille au piano ». Il a été peint par Auguste Renoir et a été réalisé vers 1892, à l'époque contemporaine. Le tableau est exposé au musée d'Orsay, un musée pour les impressionnistes. Renoir a voulu représenter la vie quotidienne. Le tableau est composé de deux jeunes filles qui font du piano dans un appartement. Une fille est assise sur une chaise et joue du piano. Elle a positionné l'une de ses mains sur la page de la partition qu'elle s'apprête à tourner, puis utilise l'autre main pour jouer du piano. La seconde fille est debout, accoudée au piano. Elle semble répéter un morceau de musique.
Tableau 5.
Le foyer de la danse de la rue Lepelletier. Le foyer de la danse de la rue Lepelletier d'Edgar Degas a été peint vers 1872 avec de la peinture à l'huile. Aujourd'hui, ce tableau est exposé au musée d'Orsay. Il a été réalisé à l'époque contemporaine. Le tableau représente un sujet de la vie quotidienne, une répétition de ballet. La scène se situe dans une salle de danse. On y voit des ballerines vêtues d'un tutu qui occupe tout l'espace. Elles semblent s'entraîner. Un professeur de danse est debout. Il s'appuie sur sa canne et donne le rythme. Enfin, un violoniste est assis sur une chaise et accompagne les danseuses.
Paysage sonore, tableau 6.
Les repasseuses d'Edgar Degas. Les repasseuses a été peint par Edgar Degas en 1860. Ce tableau est exposé au musée d'Orsay. Le peintre représente deux femmes en plein travail. Ce sont des repasseuses. Au XIXe siècle, ce métier est très difficile et peu payé. Les deux femmes se trouvent dans une pièce. Celle-ci apparaît petite car le peintre a décidé de rapprocher son cadrage sur les personnages. L'une des deux femmes bâille fortement. Elle tient son oreille de l'une de ses mains et avec la seconde main attrape une bouteille en verre. La femme semble fatiguée par son travail. La seconde femme repasse avec énergie les vêtements déposés sur la table.
Thank you.
notre classe a participé à un projet avec le musée du Macval à Vitry-sur-Seine, lire et écrire au musée.
Nous avons appris comment défendre une œuvre d'art grâce aux différents ateliers qui nous ont été proposés.
Nous avons mis en ligne sur le site de Radio Cartable plusieurs œuvres de Frida Kahlo. Maintenant, grâce à notre méthode, essayez à votre tour de décrire l'une des œuvres.
Dans un premier temps, il s'agit de décrire précisément l'œuvre, puis dans un deuxième temps, de l'interpréter.
Identifier l'année de création, l'auteur et le nom de l'œuvre, nous pouvons l'étudier en essayant d'identifier le genre auquel elle appartient.
Le portrait, scène de genre, d'histoire, nature morte ou paysage.
Parfois, il est difficile de discerner un genre particulier, c'est important de le dire.
Nous décrivons les matériaux utilisés ou la matière qui la compose selon que c'est une peinture, une sculpture, une installation ou encore des photographies.
Nous nous intéressons même à sa présentation. Si c'est une peinture, est-elle encadrée dans quel matériau ?
Si c'est une sculpture, est-elle sur un présentoir ou protégée dans du verre ou plexiglas ?
Ensuite, nous relevons ce qui la compose en partant de la vision globale, vers plus de détails, les formes que nous voyons, les couleurs, les personnages et les objets.
Nous déterminons ensuite les positions qu'elles occupent dans l'œuvre, au premier plan, à l'arrière-plan, au-dessus, en dessous, au milieu, sur le côté.
Nous nous intéressons aussi aux actions des objets ou personnages et leur placement les uns par rapport aux autres.
Après avoir décrit en détail, nous pouvons passer à l'interprétation. Il ne s'agit pas de dire si nous aimons ou n'aimons pas, mais plutôt de répondre à la question.
Qu'est-ce que cela m'inspire ?
En disant ce que nous pensons de l'œuvre, nous évoquons les émotions ou les sentiments qu'elle nous fait ressentir. La joie, la nostalgie, la tristesse, la peur, l'anxiété, la colère, l'étonnement ou par exemple l'amusement.
Plusieurs émotions peuvent apparaître.
C'est peut-être ce que recherche l'artiste.
Il est enfin important de trouver le message que veut nous transmettre l'œuvre.
Que veut nous dire l'artiste au travers de cette œuvre ?
À quoi veut-il nous faire penser ?
On espère que l'émission vous a intéressé. Maintenant, sur 89.4 FM, vous retrouvez votre émission littéraire Bibliomanie.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Alors, ce générique est venu un petit peu trop tôt parce qu'on continue l'émission. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Et maintenant, place à l'interview de Wissem Belkacem. Nous allons écouter l'interview de l'écrivain Wissem Belkacem à propos de son livre « Adieu ma honte » paru en 2021 chez Fayard. Cette interview a été préparée par toutes les classes de 4e du Collège Politzer. Merci à Marianne Guillemot, Sylvain Debeil et la médiathèque d'Ivry pour l'accueil et l'enregistrement de cette rencontre.
École Libri. École Libris,
les livres
qu'il faut
lire,
lire,
lire.
Bonjour à tous et à toutes. Je vous présente Wissem Belgacem. Il est d'origine tunisienne et française. À 8 ans, il a perdu son père et sa mère a dû nourrir sa famille de 5 enfants. À 8 ans, il ne se sentait pas comme les autres.
Élevé par la cité, il a grandi dans un environnement où l'homosexualité est visiblement interdite pour un jeune du quartier. Il intègre le centre des formations de Toulouse, mais son homosexualité devient de plus en plus dure à cacher. Après un voyage en Thaïlande, il annonce à sa mère qu'il n'est pas parti avec une femme, mais un homme. La réaction de sa mère a été dure pour lui.
Bonjour à tous, je suis très content d'être là ce matin. Je vois beaucoup de jeunes comme vous à travers toute la France, donc ça me fait très plaisir d'être dans votre ville ce matin.
Comment as-tu intégré le centre de formation ?
Quand il y a des joueurs de foot ici ?
Ouais, je pense que...
Mais il y a des joueurs de foot talentueux ou... En fait, il y a ce qu'on appelle des recruteurs qui viennent observer les matchs, beaucoup en Île-de-France et beaucoup dans la région de Marseille. Parce que c'est là où il y a les meilleurs joueurs, parce que c'est là-bas où il y a l'Olympique de Marseille, forcément. Les recruteurs, ils viennent observer les joueurs à des matchs. Et moi, donc, j'avais 13 ans et il y a plusieurs recruteurs qui sont venus et on m'a fait différentes offres. À l'époque, il y avait Montpellier... Il y avait l'OGC Nice et il y avait Toulouse. Et en fait, avec ma mère, on a visité les trois centres de formation. Et ma mère, c'était très, très important pour elle, les études. Donc, elle a vu qu'en fait, à Toulouse, c'est là où il y avait le meilleur suivi pour les élèves. Parce qu'en fait, tu as plein de clubs de foot. L'âge légal en France pour arrêter l'école, c'est 16 ans. Donc, il y en a plein de clubs qui, dès 16 ans, si tu ne veux plus aller à l'école, tant que tu es bon en foot... Il n'y a que ça qui compte. Sauf qu'en fait, le jeune, peut-être qu'il va jouer 1 an, 2 ans, et il va se blesser gravement, ou alors il ne va pas être aussi bon que ce qu'on pensait, et le club va le lâcher. Alors que c'est vrai qu'à Toulouse, il y avait un vrai suivi. Moi, je ne connaissais pas du tout la ville, hein, je ne connaissais pas la région, c'est à 4 heures de voiture de chez moi, donc ce n'était pas la porte à côté. Mais j'ai senti qu'il y avait un projet très solide, autant sportivement que scolairement. Et en fait, les trois quarts des joueurs de centre de formation, les trois quarts ne signeront pas pro. Le football, c'est très, très dur. Par génération, il y en a entre peut-être un ou deux joueurs qui signent pro. C'est bien de croire en soi, mais c'est bien aussi d'avoir un petit plan B sur le côté au cas où. Mais ensuite, moi, je vous recommanderais toujours de ne pas arrêter l'école. Quoi que vous ayez envie de faire dans la vie, apprendre, aller à l'école. Parce que l'école, ce n'est pas que les matières, ça t'aide aussi à structurer ta façon de penser, ça t'aide à réfléchir devant un problème, ça t'aide à raisonner. Parfois, vous avez des devoirs en équipe, c'est travail de groupe. C'est beaucoup plus que Pythagore et Thalès.
Quand et pourquoi as-tu décidé de devenir homosexuel ?
Alors ça, c'est une question intéressante. Donc toi, par exemple, à quel âge est-ce que tu t'es dit « Ok, j'ai le choix entre aimer les filles et aimer les garçons » et si tu es hétérosexuel, par exemple, tu t'es dit « Je vais choisir d'aimer les filles ». Eh ben écoute, non mais c'est intéressant ce qu'il dit, écoutez s'il vous plaît, il dit qu'il a toujours aimé les filles. Ben sache que pour une personne homosexuelle, c'est exactement pareil. Et moi, j'ai toujours aimé les garçons. Tu vois ? Alors même si j'ai eu une copine, hein, je suis resté 4 ans avec une fille, etc., en fait, je me mentais un peu à moi-même parce qu'au fond, je savais que j'étais gay. Si tu regardes aujourd'hui la société, si tu regardes le monde entier, t'as plein de pays où être homosexuel, tu vas en prison, on te tue. Ou en France, ben, tu peux te faire agresser dans la rue, etc. Et donc, en fait, quand tu fais la liste des pour et des contre, ben, en fait, il n'y a pas beaucoup de pour à être homosexuel aujourd'hui. Donc, je peux t'assurer que les gens qui sont homosexuels et qui ont le courage de le dire... C'est un, pas un choix, donc du coup, ce serait super injuste de leur reprocher quelque chose qu'ils n'ont pas choisi et qu'ils ne peuvent pas changer.
Qui a été la première personne à connaître ton orientation sexuelle ?
La première personne qui l'a su, déjà, ben, je dirais qu'en fait, la première personne, peut-être que c'était moi au final. Parce que moi, pendant très longtemps, j'ai pas voulu le voir. Et tu vois, je me rappelle de ce moment où je devais avoir quoi, 20 ans. Et je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit, je suis gay. C'est comme si je me l'avouais à moi-même, tu vois. Et ça, c'était la toute première personne. Et après, sinon, je pense que c'est ma grande sœur. Parce que un jour, elle est partie lire dans mon ordinateur, ce qui n'est pas bien. Et là, du coup, elle a vu un peu des notes que j'écrivais. Puis du coup, voilà, quand je lui ai dit, elle m'a dit, ah, de toute façon, j'avais déjà lu des choses sur ton ordinateur, donc je le savais un petit peu. Voilà.
Pourquoi le fait que tu sois gay a freiné ta carrière de footballeur professionnel si tu étais bon dans le foot?
Quand tu es en centre de formation de foot en France, c'est que tu as beaucoup de qualités. Techniquement, physiquement, tactiquement, c'est que tu es présent. Maintenant, ce qui va faire qu'un joueur y perce et qu'il devient pro, c'est avant tout un exploit mental que tu réalises. Parce que le football, c'est pas juste faire un bon match une semaine et la semaine d'après être mauvais, être bon à nouveau, être mauvais. Il faut être consistant, match après match, que ton coach se dise, lui, je peux compter sur lui toute la saison. Mes anciens coéquipiers, c'est Moussa Sissoko, qui a joué en équipe de France quand même, etc. Etienne Capou. Et en fait, eux, quand c'était l'heure d'aller faire la sieste, eux, ils dormaient, ils se reposaient tranquillement. Moi, quand c'était l'heure de la sieste, j'étais dans ma chambre à me prendre la tête, à me dire, putain, mais comment je vais changer. Et c'est là où j'étais comme un ouf à regarder les différents psys. Dans tous ces temps où j'étais censé me reposer, avoir l'esprit tranquille et au final, diriger toute mon énergie sur mes entraînements, et moi, j'avais le projet de essayer de devenir hétérosexuel. Et donc, je peux t'assurer que ça, psychologiquement, c'est très difficile pour un jeune de traverser ça.
Est-ce que cela a été compliqué de cacher votre homosexualité?
En fait, ça n'a pas été tant compliqué que ça. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ont plein de clichés et de stéréotypes sur les homosexuels. Il y en a plein qui pensent que si tu es homosexuel, forcément, tu es un mec qui met des talons, qui se maquille, qui porte des perruques. Sauf que moi, vu que je rentre pas dans ça, moi je pense que si j'étais venu aujourd'hui vous parler de foot, personne n'aurait dit « Ah ouais, lui, il est gay ». Parce que les gens ont des idées de l'homosexualité et qui sont complètement fausses. Alors après, attention, bien sûr, il y a des homos qui aiment mettre des talons, des perruques, et ils ont totalement le droit de le faire, et on n'a absolument rien à leur dire. Mais tu as aussi des homos comme moi qui aiment jouer au foot. Moi, j'ai un pote à moi qui est gay, il est boxeur. Être homo ou être hétéro, c'est pas forcément inscrit sur le front des gens. Et en fait, là, j'ai entendu des gens qui étaient très surpris en disant « Ah ouais, un gay peut faire de la boxe ». Et ça, essayer de prendre conscience que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup les médias et les films que vous regardez qui vous font penser qu'un homo, il est forcément comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez une émission qui s'appelle « Plus belle la vie ». Voilà. Mais « Plus belle la vie », pendant très longtemps, il n'y a pas eu un seul personnage qui était arabe. Un jour, ils ont mis un arabe, et qu'est-ce qu'on voit quelques épisodes plus tard? Le mec, il vole. Eh bien ça, tu vois, ça aide à renforcer le fait que dans la tête de beaucoup de gens en France, si t'es un arabe, t'es un voleur.
Êtes-vous déjà tombé amoureux d'un coéquipier?
Non. Ok. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si un homo garçon il joue avec une équipe de garçons, il va se mettre à kiffer ses coéquipiers, tomber amoureux, blablabla et tout. Que ce soit les personnes hétérosexuelles ou les personnes homosexuelles, tout le monde a des goûts. C'est-à-dire que toi, si t'es un mec hétéro, est-ce que quand tu marches dans la rue, t'as envie de sauter sur toutes les filles? En fait, tout le monde a des goûts. Et c'est pareil pour les personnes homosexuelles. Et donc, pour en revenir à mes coéquipiers, non, je suis jamais tombé amoureux d'un coéquipier. Parce que moi, quand je jouais au football, moi, en plus, c'était mon métier. Donc, c'est comme si j'allais au travail. Moi, quand j'étais dans un vestiaire de foot, parce que dans un vestiaire de foot, on ne parle pas de football. Tout le monde parle que de filles. En fait, j'y allais un peu avec la pression, la boule au ventre. Parce que je me disais, ah ben faut te rappeler du nom de la fille que t'as sortie le week-end dernier, etc., etc.
Moi, je voulais vous demander comment en fait, parce que normalement par rapport à la religion musulmane, moi je me posais la question comment on peut être homosexuel et en même temps musulman. Parce qu'en fait, en gros, dans l'islam, on nous dit quoi? On nous dit que les rapports sexuels entre hommes sont haram. Mais comme on ne peut pas choisir d'être gay, d'être attiré par des hommes ou des femmes, moi, je voulais vous poser la question.
Alors écoutez, La réponse que je vous fais pour ça, et c'est très important, écoutez-moi bien. Vous savez, sur Terre, il y a trois grandes religions monothéistes. Monothéiste, c'est quand on prie vers un seul Dieu. On a le judaïsme, on a le christianisme et on a l'islam. Et en fait, le passage que beaucoup de gens utilisent pour incriminer les personnes homosexuelles, c'est le même. C'est autour d'un prophète, paix à son âme, qu'on appelle le prophète Lot. Voilà. Et en fait, donc c'est le peuple de Sodome et Gomorre. Et l'histoire, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que quand le prophète est arrivé dans cet endroit où les gens étaient ce qu'on appelle des païens, ça veut dire qu'ils priaient de multiples dieux. Par exemple, quand tu traversais cet endroit de la planète, les gens se faisaient agresser, se faisaient piller. Oui, il y avait des hommes qui avaient des rapports sexuels avec d'autres hommes, mais on nous rapporte que c'était souvent des mineurs. Mais ces hommes-là violaient aussi des femmes. Et donc tout ça pour te dire que en fait, les livres saints dans les trois grandes religions monothéistes, pour ceux qui ont déjà lu, que ce soit le Coran, la Bible ou la Torah, ce sont pas des manuels où on te dit si tu veux être un bon musulman, il faut se lever à 7h30, manger deux croissants, boire un verre de jus d'orange et blablabla. En fait, dans les livres saints, on te raconte des anecdotes, des histoires, et à partir de ça, tu interprètes ce qui est écrit et tu t'en sers pour mener ta vie à bien. Et donc, en fait, une grande religion comme l'islam, tu vois, ce même passage, il peut être interprété de différentes manières. Il y a un imam en France qui s'appelle Ludovic Mohamed Zahed. Donc, lui, c'est vraiment son métier. Il a étudié ça, etc. Et lui, il propose une grille de lecture qui est différente. Quand tu as foi en Dieu, en fait, on te demande juste d'être avant tout une bonne personne sur terre et de faire le bien. Et moi, je ne suis pas convaincu qu'aller frapper des gens dans la rue parce qu'ils sont homosexuels, ben c'est ça être musulman, c'est ça être chrétien ou c'est ça être juif. Moi, je ne prétends pas que je détiens la vérité. Moi, je dis juste que j'ai une version, une interprétation de ma religion. Elle n'appartient qu'à moi. Et ce n'est pas parce que quelqu'un en face de moi pense différemment de ce que moi je pense, ben que je vais aller le frapper, le quoi que ce soit, tu vois. Ben tu sais, le mot, on parle beaucoup du mot homosexualité, mais en fait, on parle que d'amour. Et moi, je pense qu'on est sur Terre avant tout pour s'aimer les uns les autres. Et que donc, du coup, ben, deux filles qui s'aiment ou deux garçons qui s'aiment, ça ne fait du mal à absolument personne.
Comment ça s'est passé quand vous l'avez annoncé à vos proches ?
Je refais un petit pont avec l'histoire de la religion. Mes amis, tu vois, par exemple, j'ai un très bon ami à moi, il s'appelle Tala. Il est français, d'origine sénégalaise. Et Tala, c'est la personne la plus pieuse que je connaisse. Il loupe pas une prière. Et Tala, quand je lui ai dit, il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit, moi, Wissem, t'es mon frère, tu restes mon frère. Et seul Allah peut juger. Moi, j'ai rien à te dire. Donc, tu vois, souvent, en fait, les gens qui sont vraiment proches de la religion, pas juste qui entendent à droite, à gauche, ouais, ça c'est haram, mais qui savent même pas le pourquoi du comment. Par contre, avec eux, ça a été plus compliqué, parce que là, il y a du jugement. Mais parfois, certains ont eu besoin d'un peu de temps. Moi, il y a un très, très bon ami à moi, quand je lui ai dit, il s'est mis à pleurer devant moi. Il m'a dit, Wissem, t'es comme mon petit frère, et avec ce que tu m'as dit là, tu vas aller en enfer. Et je lui ai dit, tu sais quoi? C'est gentil ce que tu me dis, on va laisser le bon Dieu décider de qui va où. Moi, je te demande juste, est-ce qu'on peut rester potes? Maintenant, tu le sais, voilà. Et pendant 6 mois, on s'est un peu distancé. Et après, il est revenu vers moi. Et aujourd'hui, on est très, très proches. Et il monte à Paris avec sa femme et ses enfants dans 2 semaines. On va aller dîner ensemble et voilà. Ensuite, il y a eu mes sœurs et ma famille proche. Ma plus jeune sœur, quand je lui ai dit, elle a eu un ouf de soulagement. Parce que je lui ai dit, j'ai un truc à te dire. Et elle m'a dit, j'ai cru que tu allais me dire que tu fumais. Parce qu'elle, elle fume et elle voulait pas que je fume comme elle, tu vois. Et après, ben, mes autres sœurs, il n'y a eu aucun problème. Ma mère, quand je lui ai dit, en revanche, ça a été très compliqué. Ma mère, quand je lui ai dit, elle a pété un câble, elle était vraiment pas contente. On s'est pas parlé pendant 2 ans. Et je lui ai dit, de toute façon, ça sert à rien de me demander de changer. Je peux pas changer. Parce que forcément, moi, voilà, si vous avez étudié un peu des passages de mon livre, vous avez vu à quel point j'ai tout fait pour essayer de changer. Donc moi, quand je l'ai dit à ma mère, c'était que je savais que c'était impossible de changer. Donc je lui ai dit, t'as pas 50 options, je suis ton fils, soit tu m'acceptes comme je suis, soit on se parle plus. Mais venir me dire « Ah non, change, marie-toi avec une femme, ça va passer, nanana », je savais que c'était pas possible. Donc en fait, c'est comme si le rôle de parent et d'enfant s'était inversé. C'est un peu moi qui ai dû éduquer ma mère sur ce sujet. Parce que voilà, ma mère, elle allait sur des sites, sur des forums tunisiens et tout. Et là, tu lis les pires horreurs. Parce que c'est des gens pas très éduqués qui, malheureusement, vont mettre des commentaires. Donc aujourd'hui, avec ma mère, on est très, très proches. J'ai écrit mon deuxième livre sur elle, d'ailleurs. Ça s'appelle Yamma, qui veut dire maman en arabe. Et en fait, notre relation, elle est beaucoup plus proche qu'avant que je lui dise.
Est-ce que tu es mal accueilli en Tunisie ?
Donc moi, je suis d'origine tunisienne, hein, je suis né en France. Alors je suis français, mais mes parents, ils sont originaires de Tunisie. À 16 ans, quand le sélectionneur de l'équipe de Tunisie est venu me voir et m'a dit « De par le passeport de tes parents, tu peux aussi faire la Coupe d'Afrique des Nations, etc. Et » moi, j'ai dit un grand oui, parce que c'est le pays de mes parents, c'est un pays qui m'est très cher. J'y retourne très régulièrement. J'y étais là il y a quelques semaines pour l'Aïd. J'ai de la famille là-bas. Les gens, souvent, ils pensent qu'en Europe, on est plus ouvert d'esprit et les pays arabes ou les pays d'Afrique subsaharienne, les gens sont plus fermés d'esprit. Mais moi, je me rappelle quand mon livre est sorti, j'avais très peur que ma famille en Tunisie la prenne immédiatement, etc. Donc, j'avais quelques cousins sur Instagram que j'ai retirés. Mais en fait, comme j'ai fait une vidéo sur Brut, Combini et des plateaux télé, en fait, en 48 heures, tout le monde le savait. Et là, j'ai reçu un message de mon cousin qui s'appelle Amine, et il m'a dit « Wissem, je viens de voir ta vidéo sur Brut, sache que moi, t'es comme mon frère, tu restes mon frère, et je suis très fier de toi pour ce que t'as fait, je te soutiens à 100%. » Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, les choses, c'est pas noir ou blanc. C'est pas en Europe, tout le monde est gentil, et en Afrique, tout le monde est méchant.
Comment as-tu vécu le racisme dont tu as été victime ?
Moi, je parle d'une anecdote, surtout dans mon livre. C'est le jour où j'ai compris que j'étais arabe. C'est qu'en fait, on est parti faire un tournoi. On se faisait. À l'époque, je jouais en foot. C'était amateur. C'était dans ma petite ville, Aix-en-Provence. Et j'étais le seul joueur qui n'était pas blanc dans mon équipe. Et quand on est arrivé dans cette ville, dans le sud, il y avait des familles qui prenaient des joueurs chez eux. Et là, j'ai vu qu'en fait, je voyais mes coéquipiers qui partaient et les familles disaient nous, on prend celui-là, nous, on prend celui-là. Et moi, je voyais que personne voulait me prendre. Et je comprenais pas parce qu'il y avait mon coach à côté, mon entraîneur qui commençait un peu à péter un câble, à dire ah, c'est pas normal, c'est une honte, tous les enfants, ce sont les mêmes, etc. Et en fait, tu vois, c'est là où j'en reviens de. Tout à l'heure, on parlait des représentations, de l'imaginaire, etc. Ben, peut-être que toutes les familles d'accueil se sont dit je vais pas prendre ce petit arabe dans ma famille. Parce que peut-être qu'il va voler des trucs chez moi. Et peut-être que c'est ce qui fait que personne ne m'a pris. Et donc du coup, tu vois, j'avais 12 ans, je me suis retrouvé à devoir aller à l'hôtel avec mon coach. Mais moi, j'ai réussi à en faire une force. Parce que le lendemain, quand le tournoi a démarré, ben, franchement, j'avais la rage de prouver que ben ouais, je suis un arabe et moi, je suis fier de mes origines. Et je vais réussir comme ça. Et la France, c'est mon pays et j'en fais partie. Parce que de nos jours, on parle beaucoup d'intégration. Mais en fait, si t'es français, t'as pas à t'intégrer. C'est ton pays. Moi, si je vais vivre aux États-Unis, oui, faut que je fasse l'effort de m'intégrer aux États-Unis. Mais moi, la France, c'est mon pays. Donc je suis déjà dedans, il n'y a pas d'effort d'intégration à faire. Et donc du coup, j'ai pas à changer pour être français. Le lendemain, on a gagné le tournoi, 4-1 en finale. Donc ça reste un bon souvenir. Mais il n'y a pas tout le monde qui va faire de ces moments difficiles comme ça. Une force. C'est pour ça que moi, ça me fait de la peine. Tu vois, moi, dans mon quartier, t'as plein de mecs, ils n'arrivent pas à se sentir français. Parce qu'ils sont constamment rejetés. Moi, j'ai un pote à moi, il fait que dire je suis algérien. Mais il n'est jamais allé en Algérie. Tu vois ce que je veux dire? Et je lui dis, mais tu peux te raconter ce que tu veux, mais en fait, t'es français. C'est juste que n'attends pas que les autres t'autorisent à être français. Toi, t'es français, ça part de là en fait. J'ai pas besoin qu'on m'autorise à être ce que je suis. Je suis devant vous ce matin, vous voyez à quoi je ressemble, vous savez comment je m'appelle, Wissem Belgacem. Des insultes, que ce soit racistes ou homophobes, j'en ai reçu dans ma vie. Que ce soit sur un terrain de foot, à l'école ou autre. Et en fait, ça fait aussi mal, c'est aussi injuste de dire à quelqu'un « sale arabe, sale noir » que ça l'est de dire « sale pédé ». Et je pense qu'aujourd'hui, dans des sociétés où on veut que tout le monde se ressemble, en fait, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de, en fait, cultiver votre différence. Parce que cette différence, on peut en faire une force.
Est-ce que vous avez honte de ne pas avoir assumé votre homosexualité et de l'avoir rejetée ?
Non, j'ai pas honte, parce que je vais vous dire quelque chose. En fait, faire son coming out, il faut jamais forcer quelqu'un à faire son coming out. Chacun est sur sa propre temporalité. Moi, je l'ai dit à ma mère, j'avais 28 ans. Voilà. Certains vont te dire, ouais, c'est super tard, nanana. Il y a d'autres qui l'ont dit, ils avaient 16 ans. D'autres, ils l'ont dit, ils avaient 12 ans. Mais en fait, chaque chemin de vie est unique. Moi, il m'a fallu du temps, déjà pour me l'avouer à moi-même. Ensuite, il a fallu que j'en parle un peu à mes sœurs, mon entourage proche. Et après, je me suis senti prêt à le dire à ma mère. Alors, bien évidemment, dans un monde idéal, je serais arrivé au collège, j'aurais jamais entendu d'insultes sur les homosexuels. Comme on n'en entend pas sur les hétéros. T'entends jamais, ah, ça, l'hétéro, nanana. Un mec qui dit, bah, t'aimes les filles, nanana, t'as pas honte. Parce que ça, c'est la norme. Il n'y aurait pas eu d'insultes et je me serais dit, ah, ben, c'est super, en fait, je peux être qui je suis, j'ai pas à me cacher. Et là, peut-être que oui, bien évidemment, je l'aurais dit beaucoup plus tôt, que j'aurais eu un copain, comme j'ai eu des copines. Hein. Et j'aurais vécu ma vie sereinement, sans devoir cacher ce gros truc, en me disant, un jour, les gens vont savoir et ça va ruiner toute ma vie. Et donc, dans un monde idéal, je l'aurais assumé plus tôt. Sauf qu'on est dans le monde qu'on est. Voilà, j'ai grandi en France, dans un collège français, avec tout ce que ça implique. Et donc, bah, du coup, bah, mon mécanisme de défense, ça a été de le cacher. Et il m'a fallu du temps pour me sentir assez fort, pour me dire, bah, maintenant, je vais assumer. Et moi, quand je l'ai dit à ma mère, bah, moi, j'avais un travail, j'étais indépendant financièrement, j'avais mes amis autour de moi, etc. Et tout. Donc, même si elle a mal réagi, je ne me suis pas retrouvé à la rue. Le danger, c'est pour un jeune de le dire à sa famille ou au collège, de l'assumer. Et ben, si tu ne gagnes pas ta vie et tout, ben, tu peux te retrouver ben, à dormir dans la rue ou dans des situations très compliquées parce que tu n'as pas encore ce système de soutien autour de toi, que ce soit social ou financier. Et j'en profite pour dire un petit mot sur ça. Moi, je suis parrain d'une association qui s'appelle Le Refuge. Donc, c'est une association qui vient en aide aux jeunes de votre âge jusqu'à 25 ans et qui sont mis à la rue quand leurs parents découvrent qu'ils sont homosexuels. Donc voilà, sachez qu'il existe cette association, ça s'appelle Le Refuge. Donc si un jour vous êtes concerné ou vous connaissez quelqu'un qui malheureusement est mis à la rue par sa propre famille quand ils apprennent que leur enfant est gay, ben, il y a cette fondation Le Refuge qui existe. Il y a une grosse antenne à Paris par exemple, mais il y en a dans le sud, dans le sud-ouest, en Bretagne, etc. Il y en a 22 je crois en tout, à travers toute la France. C'est pas parce qu'on n'est pas gay qu'on ne peut pas lutter contre l'homophobie. Ça, c'est très important de le comprendre.
Merci.
Nous, les humains, on a tous une différence. La couleur de peau, les origines, les cultures, mais on a tous nos goûts et nos couleurs.
On n'est pas tous pareils, ce n'est pas parce qu'on a des goûts, des qualités et des défauts et des physiques différents qu'on n'a pas tous la même beauté. On a le même droit d'être aimé comme nous sommes. Aimez-vous.
Attention, voici le quiz.
Qu'est-ce que ça veut dire LGBTQIA+ ? En France, en quelle année le mariage homosexuel a-t-il été légalisé ? Dans combien de pays l'homosexualité est-elle encore pénalisée aujourd'hui ? Quelle peut être la sanction appliquée contre les personnes LGBT+ dans ces pays? Combien de personnes font partie de la communauté LGBT+ en France selon les estimations? Combien d'actes homophobes y a-t-il en moyenne chaque année en France? Combien de personnes LGBT+ se retrouvent à la rue chaque année en France? Entre 2016 et 2021, quelle est la variation du nombre d'insultes homophobes en France?
Alors, vous avez les réponses?
École Libre.
École Libre.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand. Il s'agit d'une émission pré-enregistrée, réalisée avec la complicité de Xavier Lecomte, que je salue et remercie bien chaleureusement. Cette émission est consacrée à Noah Baz, qui est médecin pédiatre à Paris et à Beyrouth, fondatrice de l'association humanitaire Les Petits Soleils et du prix littéraire et gastronomique Zi Riab. Cette femme de cœur, qui est aussi une femme d'engagement, nous présente aujourd'hui son nouveau livre, Le Levant, les saveurs de l'aube, paru aux éditions Nevicata dans la collection L'âme des peuples. une bien belle invitation au voyage et une méditation sur l'âme levantine dont je vous laisse découvrir toute la douceur de vivre. Bonjour Noah Paz.
Bonjour Valère Marie.
Alors nous allons aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de votre nouveau livre Le Levant, les saveurs de l'aube. C'est un très très beau livre qui vient de paraître aux éditions Nevi Kata. Vous êtes vous êtes une femme orchestre, Noah Baz, c'est-à-dire vous êtes pédiatre, vous occupez de plusieurs associations, les Petits Soleils, d'un prix littéraire aussi dont nous allons parler en fin d'émission, et vous venez de publier ce livre Le Levant, les saveurs de l'aube, dans la collection L'âme des peuples aux éditions Nevikata. Alors, Le Levant, les saveurs de l'aube, Le Levant, moi tout de suite, ça m'a interpellée, je me suis tout de suite posé la question, la différence entre Le Levant et l'Orient. Alors, d'après ce que j'ai compris, Le Levant est à l'origine un mot issu du français médiéval signifiant Orient, il désignerait à l'origine tous les territoires méditerranéens à l'est de l'Italie, c'est-à-dire voilà. Mais ça m'a intriguée, je trouve que ce mot, c'est déjà une invitation au voyage pour nous.
Eh bien, c'est très bien vu, Valère, c'est tout à fait ça. Le mot levant, moi j'ai été élevée avec le mot levant, je le raconte au début du livre. C'est également une notion qui m'intriguait quand j'étais enfant, parce que pour moi, je suis née à Alep, j'ai grandi au Liban. Pour moi, c'était donc Alep et ensuite Beyrouth et le Liban. Pourquoi le Levant ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une phrase très célèbre du général de Gaulle qui est restée dans toutes les mémoires, qui disait en 1943 « Je vais vers le Levant compliqué avec des idées claires ». Il avait en quelque sorte défini cette région du monde dans laquelle il allait s'installer. Il est resté plus de 2 ans et demi à Beyrouth, et la maison où il a séjourné est devenue un musée aujourd'hui. Donc il définissait par là finalement cet esprit dans lequel nous avons été élevés, et nous avions une dévotion pour la France et le français. Moi, souvent, quand on me demandait quel est le pays auquel vous pouvez vous référer, et je disais, ben c'est le français, finalement, mon pays. La littérature peut être également un pays, puisque c'est elle qui m'a bercé tout au long de ces exils et de ces périples que j'ai connus, et qu'elle a été une béquille de résilience, quelque part, et surtout un repère. Parce que quand on passe son temps à voyager, ensuite, une fois installé en France, avec d'incessants allers-retours, comme je le dis, à cause de la situation libanaise, il faut avoir des repères. Et moi, mes repères, du côté de ma mère, c'était évidemment la Suisse, mais romande, puisque c'est Genève, mais